Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Bumpy.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Pour cette rentrée, alors que la Coupe du Monde de rugby vient tout juste de débuter au Japon, on avait envie de revenir tous ensemble sur un match de légende, la demi-finale France-Nouvelle-Zélande de 1999. Moi, personnellement, c'est exactement pour ce genre de moment que j'aime le sport, quand il va nous surprendre, quand il nous fait vibrer de plaisir et surtout quand il nous donne envie de faire la fête. On est le 31 octobre 1999 au stade de Twickenham. Les Bleus entrent sur le terrain devant 70 000 spectateurs qui s'attendent à voir les All Blacks donner une leçon de rugby à l'équipe de France. Mené 24-10 à la 45e minute, le destin des Bleus semble écrit. Et pourtant, ils vont réaliser l'exploit et écrire l'une des plus belles pages du rugby français. Je vous propose que nous revenions tous ensemble sur cette magnifique journée avec tous mes petits camarades. Bonsoir Chloé.
Bonsoir.
Bonsoir Younes.
Salut.
Bonsoir Olivier.
Et bonsoir, bonsoir.
Et ce soir, nous accueillons Thibaut. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir Sarah, bonsoir à tous.
Salut Thibaut. Salut.
Bonsoir Thibaut.
Et avant de commencer, et histoire de se mettre en jambe pour cet épisode, je vous propose de nous souvenir.
Ouais. On va disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Australie. Nous avons battu la plus belle équipe du monde. Quel match, quel match. Bravo vraiment aux 15 de France et à tout l'encadrement.
Ils le méritent, Christian.
Ils le méritent. Un match monstrueux. C'est l'un des plus beaux exploits du sport français. C'est absolument extraordinaire. Ça vaut un France-Brésil 3-0 au Stade de France, je peux vous le dire. Dans le monde du rugby, cette victoire fera date. C'est sensationnel. Regardez Abdel Benazi. Il lève les bras. Tous les joueurs du 15 de France sont ensemble.
Ça fait plaisir.
Le vrai exploit, c'est d'avoir vibré avec les commentaires de Christian Jean-Pierre. Quand même. Ça, c'est l'exploit.
Il était en transe ce soir.
Bon, avant de commencer, un petit mot. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas Mickaël qui va présenter cet épisode.
Oui.
Est-ce que vous êtes triste?
Je croyais que c'était Mickaël qui faisait une voix. J'ai pas compris.
Ah,
moi.
C'est pas toi, Mickaël.
Je ne suis pas Mickaël.
J'ai cru que ça avait un masque, comme dans Mission Impossible.
Mais moi, je l'aimais pas trop. Alors, ça va.
Non, après ces extras au Cora de Marseillais où il est maintenant manager, c'était important pour lui
de se consacrer à ce nouveau travail.
Mais parce que là, il y a Halloween. Ensuite, il va préparer le nouvel an.
Il y a Halloween. Il y a la Noël.
Il y a plein de festivités qui arrivent.
Bien sûr.
Donc je l'ai eu récemment, c'était la semaine des vins, là, donc oui, il était à fond. Ouais, sur,
bon, voilà. Alors, en tout cas, on lui souhaite beaucoup de réussite dans son nouveau métier.
Et un bon rétablissement, il reviendra.
Il reviendra un jour, on l'espère. Et pour commencer, une petite question. Oui. Je vais commencer par toi, Younes.
Ah.
Alors, pour dire à nos auditeurs, nous enregistrons un peu avant le début de la Coupe du Monde, mais quand vous écouterez cet épisode, elle aura débuté.
Et la France aura explosé l'Argentine.
Bien sûr, voilà. 60 à 42. Younes, est-ce que tu vas suivre cette Coupe du Monde et quel est ton pronostic?
Alors, dans le désordre, mon pronostic, la France contre toute attente. Oui, parce que là, la France va se révéler. Il va révéler qu'elle a une âme et une équipe, enfin. Parce que ça fait un petit moment qu'on l'attend. Et puis, oui, je vais suivre la Coupe du Monde autant que je peux, parce que ça se passe au Japon, comme tout le monde le sait. Et les matchs auront lieu en grande partie pendant la journée. Et enfin, en tout cas, ça sera en décalé. Donc, je vais faire en sorte de m'organiser pour pouvoir voir au moins les matchs de l'équipe de France en priorité. Et puis, quelques grandes affiches majeures.
Voilà. Ah, les avantages du chômage. Hein.
Ah, ça. Rien foutre.
Merci Pôle emploi.
Et toi, Thibaut.
Bonjour, Thibaut.
Bonjour, Thibaut.
Bonjour à Thibaut.
Bonjour,
merci. Quelle chaleur humaine. Et bien, moi aussi, je vais suivre la Coupe du Monde de rugby. Je pense comme tout le monde qu'on a à peu près aucune chance de s'en sortir, donc sûrement le faire. Je pense que la France réussira difficilement à sortir des poules et que les All Blacks gagneront à la fin, un peu comme tout le monde.
Très bien, Olivier.
Oui.
Tu vas bien?
Ah oui, ça va, très bien. Moi, je vais suivre évidemment la Coupe du Monde de rugby parce que le chômage, ça sert à ça.
Ah, et, yes.
Alors, ça va pas être la même saveur que les matchs du Stade Rochelet, mais je vais essayer d'y accorder une grande importance. Je pense que l'Afrique du Sud va gagner largement. Et,
Largement.
Non, pas largement, mais je sais pas, je sens bien l'Afrique du Sud, je sens bien le Pays de Galles aussi, tiens. Allez. Et les Français, j'y crois à... Non, j'y crois pas du tout.
Il n'y a que moi, en fait.
Et voilà, et je vais suivre ça. Et de toute façon, même si les Français ont gagné contre l'Argentine 60-42, comme on le sait...
hier soir.
Avant-hier soir.
Il y a trois jours.
Il y a trois jours.
J'ai hâte qu'on en parle.
Quel match.
Incroyable. Merveilleux match.
Donc voilà, mais...
On est bien en 2002, là, non?
Je crois peu en la France, malheureusement, cette année.
Et toi, Chloé?
Bah moi, oui, parce qu'il me semble que le premier match de la France, ce sera le jour de mon anniversaire. Donc déjà, j'ai super hâte de fêter mon anniversaire de cette
année. Bon anniversaire, Chloé.
C'est pas encore maintenant, on dit pas avant.
Qui a oublié de lui souhaiter?
Par contre, c'était l'anniversaire de qui?
Sarah.
Ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Bon alors, en théorie, mon anniversaire sera aussi passé lorsqu'on aura sorti le
vrai.
Podcast.
Tu auras 16 ans.
Et
bravo.
Personne ne souhaite mon anniversaire à moi. On me le chante pas. Donc
c'est parce que t'es pas chef.
Ok.
Voilà.
Bam.
Donc oui, je pense complètement suivre cette Coupe du Monde. Et moi, depuis que j'ai vécu en Angleterre, je suis complètement pour le Pays de Galles. Ouais, carrément. Donc à mon avis, ce sera plus le Pays de Galles.
J'ai eu peur.
Très bien. Et puis bah moi, je vais essayer de suivre aussi au maximum. Et je suis absolument certaine, comme pour chaque compétition, que la France va gagner. C'est comme ça, c'est plus simple.
Et on sera deux.
Quoi qu'il arrive.
Et on sera deux, Sarah.
Même la Coupe du Monde de baseball, je pense qu'ils vont la gagner.
Ouais, t'as bien raison.
On a une équipe.
Oui, on va battre Cuba en finale.
J'en peux plus.
Exactement.
Sarah croit même en joueur français de tennis, hein, donc c'est dire.
Ah, quelle horreur. Bon, allez, c'est pas tout ça. Rentrons un peu dans le vif du sujet. En 1999, la Coupe du Monde de rugby est encore un événement relativement jeune, finalement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus?
Oui, ça date de 87 en fait. Historiquement, les compétitions de rugby se divisaient en deux hémisphères et on avait effectivement les cinq plus grandes nations européennes qui s'affrontaient dans un tournoi.
Le fameux
tournoi des cinq nations, merci Chloé. Et puis on avait le tri-nation.
Non, on ne l'avait pas.
Ah, on ne l'avait pas.
Tri-nation est apparu en 96
L'huissier
seulement.
L'huissier nous dit qu'on ne l'avait pas.
Oui, oui. Ah. Attendez, je vérifie sur ma pendule. La pendule est décalée. On ne l'avait pas.
Alors vas-y, tu prends la suite.
Le tri-nation arrive en 96, mais par contre, tu as complètement raison. Il y avait le tournoi des cinq nations qui était un peu la compétition majeure, mais qui confrontait cinq équipes, puis bientôt ensuite six. D'équipe européenne. La première compétition, c'est donc en 87. C'est deux Français qui ont eu l'idée. Ça m'énerve un petit peu.
Je
tenais à vous le dire parce que nous, les Français, alors certes, ils puent, certes, ils se lavent avec du parfum, certes, ils sont condescendants et tout, mais heureusement
calme
qu'ils sont
toi,
là pour.
Olivier. Non,
mais heureusement
très
qu'on
chaud.
Est là pour créer des compétitions.
Tranquille.
Qu'est-ce qu'il y aurait sans nous? Hein
rien du tout.
Voilà,
les impôts, c'est tout. Respires, par contre, c'est pas possible.
Et Thibaut, la première Coupe du Monde en 87, elle a une finale qui est une affiche assez intéressante.
Alors,
pour
87,
nous.
C'est mon année de naissance déjà, Sarah.
Bah, moi
joyeux
aussi.
Anniversaire.
Bah non, ça marche pas.
Pardon. En 87, en effet, c'est une affiche plutôt intéressante puisque c'est France All Blacks, comme la demi-finale de 99 dont on va parler.
Donc, historiquement, on marque déjà la compétition parce qu'on est tout de suite en finale. Quoi.
Mais on perd.
On prend une petite raclée, on est fait 29-9 en finale, mais la compétition a lieu en Nouvelle-Zélande, donc on a quelques circonstances
atténuantes.
Le décalage horaire, par exemple.
En 91.
Oui, parce que les Coupes du Monde, c'est comme la Coupe du Monde de foot, c'est tous les 4 ans.
Exactement.
Donc, prochaine Coupe du Monde en 91, où c'est l'Australie qui l'emporte.
Oui.
Puis l'Afrique du Sud de Mandela
en 95. Et on vous conseille quelque chose quand même à propos de cette Coupe du Monde, c'est d'écouter notre magnifique podcast dessus.
Sur la victoire de l'Afrique du Sud en 95, une victoire acquise sportivement bien sûr, comme tout le monde le sait.
Et du coup petit hommage à Chester Williams qui nous a quittés il y a très très peu de temps.
Oui.
RIP.
RIP à lui.
RIP.
Exactement.
Petit ange parti trop tôt.
Et donc, quand on arrive en 99, on n'a eu aucun vainqueur de l'hémisphère nord. De toute manière, on en aura assez peu, je crois.
L'Angleterre une fois,
En 2003, c'est ça.
Et avec Wilkinson.
Beaucoup de finales européennes, en revanche.
Beaucoup d'Européens
en finale. Plutôt.
D'accord, mais qui n'arrivent pas à concrétiser. Et notamment, d'ailleurs, la France qui fera trois finales dans
tout
son histoire, c'est ça. Donc, 87, 99 et 2001.
Et 2019, on peut le dire maintenant, comme le tournage a eu lieu en octobre.
Oui,
vu que mon pronostic en fait était complètement pipé, on savait exactement que la France avait gagné.
Bon, pour en savoir un peu plus sur ces deux équipes, est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire des confrontations bleu-blacks? Donc, on a déjà parlé de celle de 87, mais il y en a eu d'autres qui ont un peu marqué les esprits avant 99.
Bah, on parle déjà des Blacks. En fait, ils ont cette réputation d'être la meilleure équipe au monde. Ils sont redoutables un peu comme si on prend une vision plus populaire avec le football, un peu comme le Brésil en fait. Ils ont vraiment une qualité de jeu, une qualité de jeu de main, et ils sont aussi très athlétiques. Donc quand on mélange tout ça, on n'a pas loin d'avoir la meilleure équipe au monde. Et ouais, selon tous les experts, effectivement, à chaque fois, elle est favorite et tout le temps donnée par les bookmakers comme étant l'équipe qui va gagner le tournoi.
Et d'ailleurs, la France met, je crois, 73 ans oui. pour gagner pour la première fois contre les Blacks.
Oui, en 79, et la première victoire française à Auckland. 24 à 19 et je ne sais pas pourquoi je fais ça et donc il faudra attendre 73 ans, même si comme me l'a dit Thibaut dans l'oreille tout à l'heure, il y a eu très peu de matchs aussi pendant cette période entre la France et les Kiwis.
Mais faut... quelques raclés quand même. Hein.
Oui, après il faut voir que c'est des rencontres qui sont quand même assez compliquées à organiser. Il faut aussi mobiliser les 15 meilleurs joueurs français d'un côté pour certainement aller voyager de l'autre côté de la Terre. C'est pas le voyage le plus court et effectivement quand les choses se font, on appelle ça plutôt une tournée. Et donc, c'est sur plusieurs confrontations que les équipes s'affrontent. Voilà.
Et alors, il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas dit et qu'il faut dire, je pense, aussi pour comprendre un peu l'ambiance, c'est que le rugby n'est pas un sport professionnel avant 1995. Donc ça veut dire quand même beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que la Coupe du Monde a mis le temps avant d'exister, parce qu'on ne voulait pas que le sport, le rugby, se professionnalise trop vite. Donc ouais. La Coupe du Monde a eu lieu qu'en 87.
Mais pourquoi ?
10 ans après, le sport, le rugby s'est professionnalisé. Mais voilà, donc c'était un sport qui était très
professionnel.
Et donc je vais répondre à cette question. Eh bien, je n'en sais rien.
Super.
Merci.
Voilà, Thibaut.
Merci, Sylvain.
Alors, plusieurs raisons à ça. Petit 1. Non, je pense en fait, comme le rugby était un sport pratiqué par finalement assez peu de pays dans le monde, assez peu mondialisé, je pense que ça a mis du temps à se professionnaliser pour cette raison. Après, il y a peut-être d'autres motifs, tout simplement, qu'eux ne voulaient pas. Ils préféraient manger des cassoulets le samedi soir et rester, avoir un métier à côté, et que ce sport reste un peu en dehors des puissances de l'argent.
Oui, et puis il y a un esprit peut-être un peu comme dans les Jeux Olympiques, peut-être au fait de faire jouer des amateurs pour pouvoir justement avoir une hiérarchie qui se recrée à chaque nouvelle compétition, peut-être.
Tout à fait.
Oui, sachant qu'on vient d'apprendre, donc, quand on est joueur de rugby, que l'on mange du cassoulet.
Toujours.
Oui.
Obligatoirement.
Oui, obligatoirement.
Moi, on m'a dit, c'est le podcast des stéréotypes. j'ai commencé comme ça, j'en ai encore 3-4.
Que quand je vois un joueur de rugby, je me dis à chaque fois, oh, il a mangé du cassoulet.
Bon, résultat, on s'est un peu éloigné de notre sujet. Donc, France All Blacks, il y a eu un match qui nous a tous marqués, dont on a déjà parlé. C'est en 1994. Ouais. C'est France-Nouvelle-Zélande. C'est un match test, hein, je crois. Si je ne me trompe pas, où il y a ce fameux essai du bout du monde. Olivier, est-ce que tu veux nous en dire un petit mot ?
Oui, on vous a mis le lien sur nos réseaux sociaux, qu'on vous encourage d'ailleurs
suivre.
À liker et suivre de tout votre plein gré. L'essai du bout du monde, c'est peut-être ce qu'on appelle aussi l'essai du siècle. C'est un essai où je crois pas moins de 8 joueurs français touchent le ballon et se font des passes pour arriver à un essai de Sadourny. Qui termine l'essai. Donc c'est difficile. En fait, il est très difficile à expliquer
non,
comme ça.
Non, mais il faut aller le voir.
Mais en gros, ça joue très très vite, ça ouvre très très vite sur les côtés, très vite ça libère et tout ça en très très peu de temps. C'est très très beau à voir. On vous remettra le lien sur les réseaux sociaux.
Et donc, juste avant la Coupe du Monde 1999, il va y avoir un petit test match entre la France et la Nouvelle-Zélande pour tester les forces en présence. Et ça va pas très bien se passer.
On part sur on finit plutôt sur du 54-7 pour les Blacks, avec un joli 30-0 à la mi-temps. C'est quand même pas ouf. Hein,
oui, 30-0 à la mi-temps avec un essai français.
Merci Hugo Mola.
Et sachant que, on va en reparler, la France
ne part pas forcément favorite.
Favorite de cette Coupe du Monde.
Donc si je résume, on est en 99, la Coupe du Monde va commencer, elle est organisée cette année-là en Grande-Bretagne, en France, en Irlande et en Écosse.
Oui.
Et si on peut dire juste un mot du déroulé, hein, c'est donc une phase de poule à 4 équipes et puis ensuite les quarts, les demi, la finale. La Nouvelle-Zélande est très largement favorite comme à peu près à chaque fois. La France, elle, pas vraiment. Est-ce que on peut en savoir un peu plus sur cette équipe de France 99?
Alors, on n'a pas vraiment de certitude à ce moment-là parce que effectivement, il y a une période un peu de disette dans le rapport de victoire. Il y a néanmoins en fait un tournoi des cinq nations qui est
remporté. Mal se passer.
Oui, non, mais en fait bien plutôt la France avait quand même montré d'excellentes choses, notamment en remportant le tournoi des cinq nations
en 97 et en 98.
Ouais, c'est exactement
ça.
Voilà.
Ouais.
Et il y a beaucoup de joueurs de cette équipe qui sont issus soit du Grand Chelem 97, soit du Grand Chelem 98. Alors même s'il y a eu la désaventure de 99 où la France, on termine dernière du tournoi des 5 nations. Donc on rappelle juste les tournois des 5 nations. C'est la France, l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande. Donc on finit quand même dernière du tournoi des 5 nations.
Qu'est-ce
99.
Qu'on a quand on finit dernier?
Une cuillère en bois.
Voilà Sarah pour toi.
Bon, c'est bien une cuillère en bois.
Joyeux anniversaire Sarah. Merci.
Ça me fait un peu penser à l'équipe actuelle, en fait, elle est pétrie de doutes. On n'a aucune certitude parce que, bon, en fait, finalement, elle n'arrête pas d'enchaîner les défaites. Mais quand même, on sent qu'elle a un potentiel. Elle a le plus, en tout cas, des yeux des experts, le championnat le plus compétitif, quand on parle du top 14. Et donc, on a beaucoup d'espoir, mais ça ne joue pas bien. Ça ne joue pas bien et c'est...
On a quand même quelques joueurs pas mauvais, non ?
Alors, on a des joueurs qui ne s'entendent pas déjà. Donc, l'ambiance est bien morne dans cette équipe de France. Benazi décrit son équipe de France d'une pâle manière en disant qu'elle est en grand danger, qu'elle veut pas. Il a peur que la France devienne la Roumanie.
C'est quand même... C'est dur.
C'est pas terrible.
C'est très dur.
La Roumanie en rugby, je vous invite pas à voir leur match. Et ils viennent de perdre, en plus, dans la tournée après les All Blacks, ils ont joué contre les Tonga ou avant, je ne sais plus. Ils ont perdu aussi les Tonga. Donc perdre contre un joueur de tennis, c'est quand même con.
Oui. Et...
J'ai pas le jingle blague.
Et donc, il n'y a pas une grosse ambiance dans cette équipe. Les joueurs ne s'entendent pas forcément bien. Il n'y a pas d'harmonie. Ils essayent de faire des réunions sans que ça marche vraiment. Donc, c'est un peu difficile. Il va y avoir en plus des blessés, notamment l'ouvreur titulaire, le numéro 10, Thomas Castagnède, qui est titulaire, qui va être remplacé par Titou Lamaison.
Titou.
Donc voilà, ça a son importance pour la suite.
Ça a son importance.
Donc on a des coups du destin en définitive qui vont finalement rendre le groupe solidaire au fur et à mesure que les avaries arrivent. On fait avec ce qu'on a, mais ce qu'on a, c'est quand même très bon.
Et Galtier aussi, qui sera rappelé assez tardivement,
qui
fera une demi-finale exceptionnelle.
Qui est assez paradoxale dans cette équipe, c'est qu'il y a une base quand même d'une équipe avec le sélectionneur Jean-Claude Skrela. Alors moi, je l'aime bien, je vais faire un petit point Jean-Claude Skrela.
Le point Skrela.
Je trouve que c'est un entraîneur qui fait beaucoup penser à Aimé Jacquet en 98. Je trouve qu'il y a un parallèle qui est très intéressant entre eux.
Skrela, c'est un mec
qui est issu d'une famille d'immigrés polonais. D'une famille d'immigrés polonaises. Qui ont une ferme vers Toulouse. Son père meurt quand il a 10 ans. Il va aider sa mère.
Il prend à sa charge le travail de la ferme.
Dans la ferme. Donc il connaît vraiment ce que ça veut dire
bosser.
On ne peut pas lui reprocher ça. Ouais. Un peu comme Aimé Jacquet qui, en son temps, a aidé ses parents dans la boucherie familiale.
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est un ancien joueur qui se reconvertit entraîneur, qui va gagner 3 titres de champion de France en 85, 86 et 89 avec Toulouse. Un peu comme les titres de champion de France d'Aimé Jacquet avec Bordeaux dans le foot. Et il devient un sélectionneur après la Coupe du Monde 95 et il va gagner les deux grands chelems.
Est-ce qu'il est aussi décrié qu'Aimé Jacquet à son époque ?
Il est à ce moment-là, en 99.
Il est critiqué, ouais.
Il est critiqué. Ouais. À ce moment-là, en 99, il est critiqué, mais il va se reposer comme.
Sur son groupe.
Sur ses certitudes.
Ouais.
C'est un entraîneur, et c'est peut-être le dernier entraîneur jusqu'à présent, selon mon avis, qui a envie de représenter le French flair, c'est-à-dire la technique. Les Français, on leur fait travailler. C'est difficile à expliquer, on ne va pas aller dans les détails.
Non, mais on peut le voir dans l'essai du bout du monde, effectivement.
Voilà,
l'essai
du bout du monde, c'est le beau jeu.
Ça
c'est
va vite.
Technique, ce n'est pas que le physique. Ouais. Et ça, c'est très important. On a un peu perdu ça maintenant. Et d'ailleurs, l'un des grands théoriciens du French flair, c'est un type qui s'appelle Pierre Villepreux. Et il le prend comme assistant dans l'équipe de France.
Et est-ce que Thibaut, tu as envie de nous parler d'un ou deux autres joueurs de cette équipe qui t'ont marqué ?
Absolument pas. Il y a Fabien Galtier. Fabien Galtier, c'est un demi de mêlée qui est rappelé assez tardivement pour jouer la Coupe du Monde.
Mais alors ça m'a surprise. Il la commence pas et il peut être appelé au milieu. C'est possible.
Exactement. C'est quelque chose qui est possible quand il y a des joueurs qui sont blessés et que ça arrive avant un
au
moment
foot,
donné.
C'est pas possible.
Dans ce niveau de détail.
Oui.
Il peut être appelé tardivement.
On appelle ça des jokers médicaux.
D'accord.
Dans le sport. Et en général, dans les sports co, donc les sports collectifs, on a toujours
possible.
Un joker médical possible potentiellement.
Ok.
Mais on en a qu'un seul en général, donc je sais pas comment ça fonctionne en rugby.
Exactement. Ouais. Et Fabien Galthié, donc il a joué avec Colomiers lors des belles années de Colomiers, parce que Colomiers a été très fort à la fin des années 90.
Oui.
Il y a d'autres joueurs, il n'y a pas que lui, il y a Ntamack, il y a Titou Lamaison, on en a parlé. Moi, j'ai un peu envie de parler de Bernat Sall.
Parle de Bernat Sall.
C'est un joueur que j'aime bien. Ah. J'aime beaucoup.
Pourquoi?
C'est un ailier un peu feu follet qui fait 80 kilos alors que beaucoup d'ailiers font 90, 100, voire 120. On le verra avec les ailiers.
On rappelle juste que pour ceux qui ne connaissent, qui ne bitent absolument rien au rugby, Titou Lamaison, quand je dis ouvreur, c'est celui qui tire les coups de pied.
Oui.
Et Bernat Sall, quand on parle d'arrière, c'est plutôt celui qui est le plus rapide. Donc pas forcément le plus lourd, mais en tout cas le plus rapide. Donc celui qui va marquer les essais.
Oui, souvent, il remonte. En général,
voilà, il part de loin, il remonte.
Un peu l'équivalent de l'attaquant au football. Voilà.
On dit ailier parce qu'il joue sur les côtés, en fait.
Oui.
Comme les ailes d'un avion, finalement.
Oh,
il joue sur les côtés. Et donc, Bernat Sall, c'est un peu le joueur feu follet, mais c'est le joueur qui symbolise aussi ce French flair, qui est capable de zigzaguer, de partir de loin et de créer des offenses.
Ah, on va voir des beaux mouvements.
On va voir des zigzags. Hein.
Oh, oui.
Donc, on l'aime bien.
Slalom.
On l'aime bien.
D'accord.
Et pour la petite histoire, Bernat Sall deviendra plus tard président de la Ligue nationale de.
Rugby,
handball.
Bravo.
On a bien répété. Hein.
Zut. Et il y a aussi un joueur qui devrait te plaire, Sarah,
parce qu'il est beau.
Marc Lièvremont. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a su faire preuve de caractère dans les moments chauds, notamment pendant la mi-temps du match France All Black dont on va parler, et qui fait les deux grands chelems 97-98. Il joue à Perpignan, plus au Stade Français, je crois. Et c'est vraiment un très beau gosse. Je vous invite à voir ça.
Ouais,
il est beau, Marc Lièvremont, Sarah.
Mais ils étaient tellement beaux cette année-là. Oh mon Dieu.
Toutes ces mâchoires prééminentes.
Alors, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur cette équipe de France ou est-ce que vous avez envie qu'on passe aux adversaires?
Ouais, les All Blacks.
Les All Blacks.
On parle des méchants un peu. Ouais.
On va parler des méchants. Alors, les méchants, les All Blacks, donc on a déjà dit qu'ils étaient souvent favoris. Et puis alors, ils ont une petite arme secrète qu'on appelle le haka. Alors, on va revenir dessus, mais je vous propose tout de suite d'écouter un haka, un kappa au pango, parce qu'il y a plusieurs types de haka. On va vous expliquer tout ça juste après. Le haka, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Qu'est-ce qui se passe?
Déjà, ça nous a tous chauffés, là.
Ah, c'est un héritage culturel des îles du bout du monde. Donc, des îles polynésiennes, des îles samoanes.
L'île de Ré.
Des Maoris, notamment.
Les Maoris, notamment. Et effectivement, c'est un rituel guerrier ou un rituel, en tout cas, d'accueil pour commencer, entre guillemets, un affrontement. Et effectivement, il a été adopté par le 15 des All Blacks.
Oui, c'est pas dans le seul sport d'ailleurs, je crois qu'il est pratiqué.
Les Samoa aussi l'utilisent aussi de leur côté parce qu'ils ont chacun en fait un haka bien particulier.
Mais les All Blacks, c'est depuis 1905, c'est ça, qu'ils commencent à l'utiliser avant les matchs.
Ouais.
Ouais. Oui, et ça l'a rendu populaire d'ailleurs comme ça aux yeux du monde entier.
Et ils ont profité justement en fait du rugby pour pouvoir en fait véhiculer leur culture à travers le rugby, puisque ça commençait à être télévisé et puis relayé. Et puis
ce qui ne plaît pas forcément à toutes les tribus.
Et effectivement, j'allais le dire justement, effectivement, certaines tribus assez conservatrices au départ voyaient ça d'un mauvais œil.
Oui, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément guerrier, c'est aussi pour ça que ça ne plaît pas, c'est qu'on le déchiffre comme une résonance guerrière, mais c'est vraiment pour montrer la culture, l'étendue, la richesse de la culture maori. Il y a plusieurs types de haka.
Il y a plusieurs types de haka. Certains sont faits pour parler, entre guillemets, à travers des chants qui vont véhiculer l'esprit de la nature, ce genre de choses, et utiliser, entre guillemets, le corps de l'athlète comme un véhicule. Et donc, ça va être plutôt pacifique, mais en tout cas, avec toujours une expérience. expression
d'ailleurs,
assez impressionnante.
Au départ, c'était ce qu'on appelait le K-maté.
Le K-maté,
qui
oui.
était le AK utilisé par les joueurs All Blacks. Et finalement, ouais. ça a changé parce qu'on s'en moquait un peu.
Alors, on s'en moquait un peu. Il était fait surtout pour galvaniser l'équipe. Et celui qui a été remplacé, donc celui qu'on vient d'écouter, donc le
Kappa Opongo.
Kappa Opongo est carrément plus meurtrier, plus déterminé. Et il est souvent utilisé encore aujourd'hui, puisqu'ils sont revenus un peu au K-maté, mais il est utilisé encore aujourd'hui pour les ennemis héréditaires.
Moi, j'étais ceinture blanche de K-maté.
Ah oui.
C'est très drôle. Et du coup, c'est marrant parce que ça a créé plein de confusion avec notamment la couleur que portent les All Blacks, qui a souvent été associée comme ils portent le deuil de leurs adversaires. Oui. Et moi, j'étais trop contente de raconter cette anecdote tout le temps. Oui. Genre, ouais, les All Blacks,
mais finalement,
ils sont tellement brutaux, en fait, c'est que tout le monde va mourir en face. Et en fait, non, c'est pas du tout une couleur qu'ils associent au deuil.
Non, voilà, comme quoi les champs culturels sont très différents. Et effectivement, de l'autre côté de la terre, le noir n'est pas forcément associé au deuil.
Et d'ailleurs, le Kappa Opongo, il finit avec un geste qui, pour nous semble un geste de jeter gorge.
Oui.
Et apparemment, ce n'est pas du tout le cas, puisque le compositeur a expliqué que les mots et le mouvement à ce moment-là, ça représente l'énergie vitale puisée dans le cœur et les poumons.
C'est Richard Klederman, c'est ça le compositeur, non ?
Je ne sais plus, mais on va dire que oui.
On va lui demander.
C'était une blague. Hein.
Mon AK préféré, moi, c'est le Lelo. Akalelo, Akalelo. Allez, je vous laisse.
Et alors pourquoi on appelle les All Blacks les All Blacks ?
Toi, tu partais pas, Mickaël.
Thibaut, ça, je te laisse répondre à ta question.
Parce qu'ils sont habillés en noir, mais pourquoi ils sont habillés en noir ?
Je sais pas.
Ah voilà. C'est qui celui-là qui ramène sa fraise tout le temps là ?
Il connaît trop de trucs.
Il est nouveau, il ramène sa fraise.
Mais dis-le nous, Thibaut.
Je ne suis pas certain d'avoir la réponse, mais puisque vous la réclamez tous, je peux vous la donner. Non, c'était un reporter, je crois un reporter britannique qui avait couvert un match des All Blacks il y a 90 ans. Et il était étonné par ces joueurs qui étaient tous des joueurs d'arrière qui produisaient du jeu. Donc, dans son compte-rendu, il a écrit qu'ils étaient des All Back. Et en fait, le All Back, le L est venu dans sa copie. Ce sont devenus des All Black. Et de cette erreur-là, on a appelé les All Back les All Black. Et ils sont devenus joueurs.
Comme quoi, une coquille et la légende est née.
Et un destin est né. D'accord, très bien. Et
joyeux anniversaire, Sarah.
Merci.
Joyeux anniversaire.
Oui. Déjà 40 ans.
En 1999, donc les All Blacks, ils ont deux grandes armes, le AK et la deuxième, je crois, Chloé, qu'il s'appelle Jonah Lomu.
Ah oui.
Oui.
Jonah.
Oui. La montagne.
Jonah.
L'autobus.
Oh mon Dieu, je suis tellement... Ok, c'est parti.
Allez.
Alors, Jonah Lomu, déjà... Ça fait deux semaines que je regarde énormément de compilations de Jonah Lomu. C'est son best-of, incroyable. Donc Jonah Lomu, né le 12 mai 1975 à Auckland ou à Pukekohe, c'est selon les légendes.
Ou à Vierzon, il y en a qui.
Ou à Vierzon, non.
Ça, mais ça, j'y crois plus.
Olivier Lomu.
Certains
Olivier
l'ont vu.
Olivier Lomu.
Oui, t'avais raconté ça une fois quand j'étais fan. Oui. Après, ça a bien changé.
Comme quoi, une coquille.
Alors, il a des origines tonguiennes, wallisiennes par son grand-père maternel, samoane par sa grand-mère maternelle et maori par son père. Donc, il cumule un petit peu tout. Hein, il a tous les jokers dans sa manche. Alors, taureau ascendant taureau. Donc, lune en taureau, c'est la gentillesse même, mais ça en fait quand même un petit caractère. Beaucoup de conviction dans ses idées et beaucoup de volonté. Un sacré petit personnage, ce qui ne l'empêche pas d'être un grand romantique. Et assez gourmand. Son surnom.
Ça te fait rire, hein, Olivier.
Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.
Il adore ça.
Alors, son surnom, enfin, il a plusieurs surnoms, mais mon préféré, c'est l'autobus parce qu'il roule sur ses adversaires. Mais c'est aussi la montagne, sinon, voilà, c'est un peu bof. Donc, 1m96 pour 118 kilos.
Comme toi, Younes, finalement.
Oui.
À peu près.
Une
à peu
cuisse.
Près. C'est pour ça que je ne fais pas la bise à Younes parce qu'il fait des torticolis à chaque fois, ça fait mal.
Oui.
Grand, puissant et rapide, Younes.
Ah, c'est tout moi. Surtout.
Il est vraiment connu parce que c'est une des premières figures emblématiques du ballon ovale avant que ça devienne en fait ultra médiatisé. Comme on a dit, la médiatisation et la professionnalisation de ce sport, c'est vraiment récent. À l'âge de 19 ans, il reçoit rien puisqu'il rejoint les rangs des All Blacks, mais il reçoit du coup le maillot avec la belle feuille de fougère argentée. Mmh. Et c'est du coup l'un des plus jeunes joueurs à endosser ce maillot. En 95, il marquera 7 essais en 5 matchs lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud.
Et oui.
Et malheureusement, c'est pas une carrière de longue durée parce qu'il met fin à sa carrière en 2010 pour tenter une reconversion dans la boxe.
Mais alors, qui sera pas un succès. Hein,
c'est pas un succès. Moi, j'ai pas trouvé beaucoup de choses là-dessus. Je pense que ça a dû durer un an ou six mois. Il avait signé visiblement un contrat avec KOWS, donc K-O-W-S, une société où, pareil, j'ai rien trouvé dessus. Donc, à un moment, je me demande où j'ai cherché aussi. Il aurait participé du coup à un tournoi en Nouvelle-Zélande, mais
on n'a rien dessus non plus.
On n'a rien dessus. Donc en fait, j'ai rien, j'ai pas d'image, j'ai pas de preuve, j'ai pas de contrat.
Est-ce qu'il est néo-zélandais, on ne sait pas.
Ce qu'il faut dire surtout, c'est qu'il avait un grave problème de santé, Thibaut.
Ouais. Et oui, je crois qu'il avait des gros problèmes de reins.
Exactement.
Et il avait déjà dû faire une première pause. Il avait déjà dû faire une première pause dans sa carrière et il était revenu en 99 pour cette Coupe du Monde. Et ensuite, il a arrêté sa carrière assez rapidement.
Il a été sollicité par une équipe de football américain, notamment les Denver Broncos, qui lui avaient fait une proposition de 10 millions de dollars sur un contrat et il l'aurait refusé justement à cause de ses problèmes de santé.
Alors, je ne sais pas en quelle année c'était, mais en fait, il a subi sa greffe en 2004. Et à partir de ce moment-là, il avait des dialyses 3 fois par semaine pendant...
Après, c'était terminé, oui, bien sûr.
Bah, oui, de toute manière.
Mais toujours est-il que c'est une trajectoire assez passionnante. Il avait des problèmes de famille, il s'en est toujours sorti. Il a eu des problèmes de santé, il s'en est sorti. Voilà, en 99, il arrive, il n'est pas titulaire au départ avec les Blacks, ça, faut pas l'oublier. Parce qu'il revient, il revient de 2 ans de convalescence avant de revenir et de briguer une place de titulaire.
Voilà, et du coup, le 18 novembre 2015, Monsieur Lomu est parti vers d'autres cieux.
Oui, à 40 ans, c'est ça. Donc, il est mort très jeune.
Très jeune,
finalement.
Ouais. Mais il faut savoir vraiment qu'on parle du Michael Jordan du rugby.
Oui,
hein. D'ailleurs, on fera probablement peut-être un EPO sur lui.
Oui, ça vaudrait la peine. Et d'ailleurs, il est tellement connu, il a tellement marqué les esprits que Dominici a appelé son chat Lomu. Ça m'a fait rire.
C'est vrai.
Si, il avait un très gros chat et il l'a appelé Lomu.
Ah, mais peut-être que ma copine est fan de Jordan Lomu parce qu'elle m'appelle d'ailleurs justement
d'accord.
Olivier, tiens, viens, le mou.
voilà. Et en 1999, face à Lomu sur le terrain, il y a un Français qui s'appelle Philippe Bernatsal, dont Thibaut nous a un peu parlé, et voilà ce qu'il en dit.
Personnellement, déjà, j'ai passé une semaine de merde parce que c'était le duel Jordan Lomu-Bernatsal. Je lui rendais 40 kilos, donc tous les jours on venait ou me mesurer le biceps, ou me mesurer les cuisses, ou me mesurer le cou, en me disant que Jonah il cassait tout le monde, que j'allais, voilà. Donc c'était assez compliqué parce que c'est vrai que physiquement tu joues en face de ce qui se fait de mieux dans le monde, donc c'est pas, déjà les Blacks, en plus Jonah, donc c'était pas facile, voilà.
Donc voilà, globalement, Philippe il s'est dit que voilà, il est attendu au tournant et qu'il a pas beaucoup de chance d'arrêter Lomu sur le terrain.
Ouais, il a un peu les foies et il se dit qu'il va se prendre l'autobus dans la gueule.
Voilà.
Et que ça va pas être sympa pour lui parce qu'il est en vis-à-vis, et effectivement, bah là pour le coup tu réfléchis, parce qu'effectivement on parle actuellement des violences de ce sport, on parle des gens qui sont décédés sur un terrain, dans plein d'autres sports d'ailleurs, mais le rugby en particulier est un peu la cible liée en fait à la professionnalisation qui est arrivée, du fait que les joueurs soient de plus en plus puissants, soient de plus en plus athlétiques, et les contacts deviennent de plus en plus rudes en fait.
Bah, déjà là-bas c'est un sport de contact.
Oui, c'est un sport de
donc,
combat.
Il y en a énormément
collectif.
Et il y a beaucoup de blessés.
Et dans certaines configurations, notamment quand on a un Jonah Lomu qui nous fonce dessus, bah, on a beau faire plus de 100 kilos. Bah,
moi, personnellement, j'aimerais pas que ça m'arrive.
Ouais. Non, mais c'est moi, fou de voir.
Alors que Marc Lièvremont,
il fonce dessus. Hein, ouais.
C'est fou quand tu regardes les images et tu dis les mecs qui foncent sur lui en pleine conscience de ce qui va leur arriver dans la tronche. Enfin, moi, je hurle et je rentre chez moi.
Ce qui est impressionnant dans l'extrait que vous montrez, c'est qu'on a un joueur professionnel qui parle d'un autre joueur professionnel comme s'il était lui-même un enfant et qui parlait d'un adulte.
Ouais, c'est vrai.
Très drôle.
Oui, oui, oui. Et donc on rappelle Bernatsal 80 kilos, enfin je crois, et Lomu 118. Hein, donc ça, voilà, c'est pas non plus. Younes, je pense que t'as tes chances, hein, toi, pour ça, Lomu.
Pour sa chaussure, ouais.
J'avais envie de vous lire une petite citation donc de l'un de ses partenaires de jeu, Jeff Wilson, qui disait c'était un phénomène. Il montrait quelque chose que le monde n'avait jamais encore vu. Étant donné les circonstances, les problèmes de santé qu'il traversait, c'était bien de le voir accomplir ses rêves. Il était la star de la Coupe du Monde. Son histoire est pleine de drames, mais il était important pour nous. Et bah, ça donne envie de faire un EPO sur Jonah Lomu.
C'est fou, ça me fait beaucoup penser à Mike Tyson, en fait, quand on parle de Lomu.
Oui, peut-être.
Le passif, en tout cas, de une force de la nature qui
et Julio Tavares
sort
aussi.
De cette manière-là.
Oui. Oui.
Et Marquez.
Et Marquez.
Oh, Marquez qui a gagné aujourd'hui.
Mais non, on est en mars.
pardon. Mais il avait déjà gagné sûrement en mars. Hein, donc.
Bon, je pense qu'on peut dire qu'on a à peu près posé le décor.
Oui.
La Coupe du Monde peut enfin démarrer. Bon, avant de passer au match, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le parcours des deux équipes en quelques mots, un peu rapidement?
Le bilan.
Alors, il faut le faire calmement.
On va le faire très bien, toujours. Le bilan est toujours fait calmement, Olivier, tu le sais. Je dirais juste que les All Blacks ont marqué 206 points sur les 5 premiers matchs, les Bleus 155. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce qui s'est passé et comment ça s'est passé?
Oh, bah ça y est, t'as tout dit.
Il y a le tournoi de départ avant que ça ne devienne un tournoi. C'est les poules et donc c'est un petit championnat, effectivement.
Comment va Tweety d'ailleurs?
Oh, il va très bien, il pond des œufs maintenant, donc c'est une femme.
Oui, Tweety, la poule de Younes, dont vous n'avez jamais entendu parler, mais dont on parle à chaque fin d'émission parce que ça nous importe beaucoup, va bien.
Thibaut non plus ne la connaissait pas.
Non, je ne la connaissais pas.
Thibaut est une femme, est une poule, elle pond des œufs désormais. On vous tiendra au courant tous les mois de l'évolution de Tweety.
Exactement. Donc la France affronte le Canada, la Namibie et les Fidji avant de sortir en quart de finale et de rencontrer l'Argentine.
Et alors, comment on les sent, les Français, sur leur match de poule, déjà?
Pas très bien.
Ouais, Thibaut?
Pas très bien, ouais, parce que la poule est quand même facile. On a des adversaires
comme
qui sont...
comme
Tweety, exactement. Oh. Et le Canada, ça se passe difficilement. On gagne de 13 points. La Namibie, c'est très mauvais. On gagne, mais c'est pas non plus très glorieux. Et le dernier match contre les Fidji est lui aussi difficile. Donc
on est surtout fragile en défense. Donc, pour le coup, on commence à se dire, l'équipe de France, c'est pas l'assurance tout risque. Et qu'est-ce qui va se passer contre l'Argentine en quart?
Alors, qu'est-ce qui se passe contre l'Argentine en quart?
Eh bien, on les éclate.
Eh bien, on les éclate comme il y a 3 jours, d'ailleurs.
Non, mais raisonnablement, on gagne le match. Alors, c'est un match qui est âpre et plutôt à l'avantage des deux équipes. Au milieu de la partie, on ne sait pas forcément dans quel camp la victoire va décider. Et finalement, c'est la France qui remporte 47-26 ce match.
C'est un peu le déclic, non, ce match?
Oui. C'est un peu la naissance d'une équipe.
Oh, c'est beau.
C'est un peu la naissance. Pour la petite histoire, Galtier est arrivé sur le match précédent contre les Fidji, ouais. Parce que Mignoni était blessé. On s'en fout. Enfin, on s'en fout pas.
Non, c'est
Mignoni,
non,
c'est important.
Mais Fabien Galtier.
Et ça, Galtier, ça aura son importance. Il va transcender un peu cette équipe, selon moi. Et Thomas Lièvremont, le frère de Marc Lièvremont, qui était dans l'équipe, se blesse également.
Ah. Donc, c'est un coup dur.
On sort 3 matchs d'enfer et on gagne contre l'Argentine. Et c'est là aussi qu'une équipe naît.
Et vous savez pourquoi elle naît, cette équipe? Pourquoi après l'Argentine, ça naît? Et ben moi, je vais vous le dire pourquoi.
Oui.
Parce qu'on fête la victoire.
Ah, oui.
Et vous savez comment on la fête? Et ben on fait des paquitos dans le bus.
On fait des paquitos.
Voilà. On boit des pintes de brune.
On boit des pintes de brune.
Et on chante des chansons de Johnny tous ensemble.
Ouais.
Et ça rapproche
de Johnny et de Zebda. Tombez la chemise.
Bon, et de l'autre côté, pour la Nouvelle-Zélande, là, on a eu un petit parcours de santé, non?
Oui.
Ouais.
Alors moi, j'ai bien aimé parce qu'en poule, ils ont gagné 101-3 oui. contre l'Italie.
Oui, c'est beaucoup.
L'Italie qui sera la sixième nation qui va venir compléter le tableau du tournoi des cinq nations.
Oui.
Et bon, il y a quand même un adversaire redoutable aussi dans la poule des Néo-Zélandais.
Oui, il y a l'Angleterre.
Il y a l'Angleterre.
Oui.
Qui est à domicile.
Qui est à domicile, effectivement. Et c'est un match compliqué. Donc c'est le premier match, en fait, où les Néo-Zélandais ont une complication. Donc un véritable adversaire à leur hauteur. Et ça se passe, ça passe tout juste, en fait. Hein. C'est une victoire, mais une courte victoire.
Oui. Oui, mais on ne les sent pas en danger, les Néo-Zélandais, que ce soit contre l'Écosse en quart ou l'Angleterre en poule. Ils survolent un peu cette compétition.
Ils sont sereins,
c'est les archi-favoris. Il y a vraiment une différence par rapport à la Nouvelle-Zélande, pardonnez-moi, d'il y a 4 ans, c'est qu'en plus, ce sont les grosses stars. Il y a un avion à leur effigie. Tout est parfait pour l'instant. Pour eux, ils ont des arrières explosifs parce qu'ils n'ont pas que Jonah Lomu, ils ont Tanau Maga, dont on va reparler un tout petit peu plus tard. Ils ont Cullen et ils ont surtout un magnifique joueur qui s'appelle Jeff Wilson, qui est considéré, au-delà de Lomu, comme le
meilleur joueur. Ouais. C'est peut-être à l'époque le meilleur joueur au monde.
Donc si je résume en quelques mots, globalement, on donne pas beaucoup de chance aux Français. Hein.
Je crois que c'est zéro. Hein.
Zéro, même, là, peut-être que c'est ça. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, à l'époque, ils avaient aucune envie d'aller en conférence de presse avant le match contre les Néo-Zélandais, parce que répondre aux questions, comment vous allez faire pour pas vous prendre 50 points?
Oui, c'était plus...
Ça les intéresse pas tellement.
Comment vous allez endiguer l'hémorragie plutôt que est-ce que vous avez une chance?
Exactement.
Quand tu galères déjà contre le Canada, te dire que la prochaine cible, c'est la Nouvelle-Zélande,
c'est pas facile.
Tu dois pas beaucoup dormir la nuit, ouais.
Et pourtant, comme le témoignent les joueurs de l'époque, après le match contre l'Argentine, il y a une forme de sérénité qui va s'installer avant le match. Et d'ailleurs, le miracle va se produire. On y revient juste après la pause.
such a fucking bus fare. Double Dutch bus coming down the street, moving dirty there, so kind of shuffle over beach. Get on the bus, pay your fare, then tell a driver that you got went to a Double Dutch affair. The Double Dutch bus is on the street. You better get off the curb, move your feet. Bus fare, transpass, that's the way my money lasts. Ain't got no car to get around. When I go to work, I gotta go downtown. Now I miss my train, that's a common shame. When I'm running late, no streets to blame. If you got a wife, you know I'm right. You got a special man, well I can understand. Uptown, downtown, everybody's getting down. Say uptown, say downtown. Well, I miss my bus, I know I'm late, I gotta do something. I'm gonna walk to work, 50 bucks already got a hole in the fox over here to laugh. That's okay, cause what I really wanna say, I got bad feet, my coins hurt. Top it off, I'm late for work. Let me tell you what I say when I'm dealing with a broken sidewalk. Let me show you how I walk when I gotta do my funky walk. Let me tell you what I say when I'm dealing with a broken sidewalk. I say, shh, sugar.
C'était Frankie Smith avec Double Dutch Bus. C'était mon hommage en fait à John Alomou. Donc c'est un bus à deux étages qui vient récupérer les enfants devant leur maison aux États-Unis. Et effectivement, c'est un tube le seul tube de Frankie Smith en 81, mais il a beaucoup inspiré le hip-hop et notamment What's My Name de Snoop Dogg.
Merci beaucoup, Younes.
Ça a servi de sample, voilà.
Merci pour cette belle programmation musicale.
Mais je t'en prie, j'essaye.
Bon, je ne sais pas quoi vous dire à part que ça y est.
On est stressé.
On y est. Un peu stressé. C'est le grand jour.
C'est le grand jour.
La France.
Bienvenue sur ce podcast de contre-pétri.
Et on s'amuse en musique et en mots en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. C'est quoi l'ambiance côté bleu avant d'entrer sur le terrain?
On a les pétoches.
On a peur.
Non, on n'a pas les pétoches.
Non, on n'a pas peur.
Moi, je suis d'accord avec Olivier.
Ils font le bilan calmement,
en se remémorant tous les instants.
Toujours.
Et en se disant, c'est Men in Black qui débarque là avec leurs grosses lunettes et tout le temps noir. Là, on va les dégommer. Enfin, non, on va peut-être pas les dégommer, mais on n'a pas peur.
Ils se la pètent un peu trop, les Blacks, et en fait, ça nous galvanise plutôt.
Mais en fait, la vraie question, c'est qui a la pression? Je pense que les Blacks, à l'époque, avaient la pression. La France a quand même la réputation de les avoir fait déjouer plus d'une fois. Et ils ont effectivement un aura aussi, même de l'autre côté, les Blacks considèrent aussi les Français comme un adversaire redoutable.
Pour résumer, les Blacks sont tout à perdre, les Français quasiment rien, ils sont en demi-finale,
c'est déjà pas mal.
Tu résumes vachement bien. Oh, je savais qu'on l'avait gardé parce qu'il résume vachement bien.
Bah, c'est pour ça qu'on l'a choisi.
Alors pour les cafés aussi.
Pour les cafés
il les fait bien.
Même, oui, c'est bien. Il fait bien le café.
Ne résume pas les cafés.
Mais je préfère un tout petit peu plus corsé.
D'accord. Moi, on ne sert pas des cafés. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai pas l'âge, c'est ça?
Mais t'es trop jeune.
T'es trop jeune.
C'est bientôt mon anniversaire.
Joyeux anniversaire. Bon.
Vivement l'été.
En tout cas, le match. Olivier, tu voulais dire quelque chose encore?
Qu'est-ce que je voulais dire? Non, joyeux anniversaire, c'est Dilo, que tu peux commencer.
Ok, donc je peux continuer.
Merci.
Et donc le match va commencer tout à l'heure.
Si, je voulais dire un truc. Pardonnez-moi, excuse-moi, je suis désolé de te couper. Mais il faut parler un tout petit peu du discours.
Bah
avant,
voilà, je savais que tu avais un truc à dire.
Dans les vestiaires de Skrela qui va les empoigner et leur dire qu'il faut y aller, qu'on n'a rien à perdre. Tous les joueurs vont le dire. Et vous vous souvenez de Thomas Lièvremont?
Bien sûr.
Oui.
Le frère de Marc.
Le frère de Marc, Marc. Je ne sais pas s'il est aussi beau que Marc. Il y aura débat.
Non.
Très bien, Younes.
Moi, je pense que si.
Younes, il a un classement. Younes, il a un classement des joueurs des années 90, du plus beau au plus moins.
Voilà, au moins beau.
Bref. Et Thomas Lièvremont leur écrit une lettre à ces Bleus.
Ah oui, parce qu'il est blessé.
Il est blessé, il ne peut pas jouer. Donc, il leur dit que c'est leur rêve, qu'il faut qu'ils le terminent, que lui, a espoir, garde espoir et a confiance en eux. Et là, tous les Bleus pleurent. Enfin, pas tous, peut-être. Mais
beau.
En tout cas, je suis sûr que Marc, il a pleuré.
Je suis sûr Benazi, il n'a pas pleuré.
Pas Benazi.
Non, c'est un bonhomme.
Alors, le match va débuter. Tout à l'heure, on a écouté un petit Aka Kappa Opongo.
Ah oui.
Là, à l'époque, on est encore au Kamaté. Alors, écoutons un peu l'ambiance de ce début de match.
Moi dont on parlait à demi-mot durant l'intégration avec des Maoris et des Européens qui ont émigré évidemment en Nouvelle-Zélande, qui s'avancent maintenant autour de leur capitaine Payne Randell pour le moment attendu, le moment du haka que l'on va évidemment vous laisser savourer.
Alors, le haka, c'est une forme de guerre presque psychologique. En fait, on cherche à impressionner l'adversaire. Et cette fois-ci, c'est un haka un peu tiède.
C'est timide. Et puis, ils n'ont pas forcément tout le stade avec eux. Ils sont loin de chez eux. Et les gens aussi ont envie de voir une surprise, peut-être. Et donc, on n'a pas le public forcément derrière la Nouvelle-Zélande.
Ce qui est fou, c'est que du coup, là, on ne l'entend pas trop avec l'audio. On le voit plus avec l'image de... Ils n'ont pas l'air d'avoir la niaque spécialement.
Non, c'est pas la transe habituelle.
Les joueurs ne se sentent pas en danger finalement. Ils se disent que ce match va être facile, donc ils n'ont pas besoin d'un haka trop guerrier cette fois-ci.
Oui, peut-être.
Et les Français un peu les comédiens en représentation, mais qui font un truc un petit peu mécanique.
C'est une générale, ou quelque chose comme ça. Non, au contraire, c'est pas une générale, c'est vraiment une répète comme ça. C'est un haka mi-figue, mi-raisin.
Et moi, je ne sais pas, je me souviens toujours de ce haka, je crois que c'est en 2011. 11 où les Blacks font leur AK et les Français s'avancent, ils font une ligne et ils s'avancent et ils se mettent à juste quelques mètres d'eux en les regardant droit dans les yeux. J'adore, c'est trop stylé.
C'est trop stylé.
J'adore. Bon, c'est pas tout ça. C'est parti. Coup de sifflet, c'est le départ. Une première mi-temps. Est-ce que vous pouvez me dire un peu l'ambiance, la tactique des Français? Comment ça se passe ce début de match?
On ouvre le score.
Déjà. Très bien, on y est direct. Très bien.
On rentre vraiment directement.
On rentre dans le dur et on ouvre le score et par un coup de pied. Donc c'est la maison qui ouvre le score. Donc on a une pénalité, 3 points.
Christophe Lamaison, retenez ce nom parce qu'il va faire un plutôt beau match.
Ouais, oui. On va pouvoir dire que Christophe Lamaison va casser la baraque.
Oh là là.
Très drôle. C'est Titou ou c'est Christophe, ça dépend.
Quel est peut-être. Olivier, un peu la tactique des Français sur ce match. Est-ce que tu peux nous en dire un ou deux mots ou pas ?
La tactique des Français, oui, bien sûr. Alors, il y a une phrase que j'ai notée de Franck Menel, qui était finaliste du Mondial 87 contre la Nouvelle-Zélande, qui disait « Dans les meilleures équipes françaises, l'artiste côtoie le boucher ». On y est un petit peu, à savoir qu'il y aura une grosse agressivité de la part des Français. Hein, tout y passe, fourchette, donc coup dans la poitrine, fourchette, tirage de cheveux. On impose notre bataille physique.
C'est
on l'impose bien et on essaye en quelque sorte de ne pas faire respirer les Blacks, notamment sur les ailes où Jonah Lomu se doit d'être contenu.
Il faut avouer que les Français ont décidé de faire dans le sale.
C'était un match très violent et souvent dans les matchs de rugby il y a un joueur dont la responsabilité est un peu de casser d'autres joueurs sans que ça se voit trop finalement.
Et là c'est qui
dans ce match il y en a un qui s'appelait Cédric Soulette, son surnom c'était Piège à loup parce que son but c'était justement de casser l'adversaire dans la mêlée. Il l'a fait. Son adversaire s'appelait Kronfeld et il lui a un peu fait péter les plombs dans la mêlée. Et ça a participé à dérégler le jeu Black.
Il se passe pas mal de choses dans la mêlée, j'imagine.
Donc Younes, tu nous l'as dit, la France marque une première pénalité, 3-0. Puis elle est rattrapée 6-3 puisque les Blacks vont avoir deux pénalités.
Ouais.
Et c'est à la 20e minute finalement que le match démarre vraiment, que la première essai. Olivier, est-ce que tu veux nous en parler? Qu'est-ce qui se passe? C'est les Blacks qui devraient le marquer, ce premier essai, hein, selon toutes les statistiques. Et pourtant...
Eh bien voilà ce qui se passe, nous sommes la 20e minute de jeu, la maison qui récupère la balle dans ses 22 mètres, il est très loin de la ligne d'en-but des Blacks. Tout de suite il porte le regard, son regard de faiseur, et relance, remonte 20 mètres vers les Blacks. Il va aller au duel le bougre, et donne la patate chaude au solide Benazi, paf, qui vient percuter le Blacks avec sa puissance. Il est à terre, mais libère le ballon tout de suite pour Galtier, qui joue petit côté, le long de la ligne, à gauche, pour Dominici qui remonte le terrain, incroyable, un crochet, un autre, il s'ouvre le terrain, c'est Speedy Gonzalez, Dominici, qui remonte 60 mètres, il va marquer le petit. Ah, il est rattrapé par la patrouille, Culen en l'occurrence, à quelques lignes de la ligne. Il faut l'aider, je ne sais pas pourquoi je commence à prendre l'accent du sud. Regroupement, 5 mètres de la ligne, Galtier libère pour Dourte qui ouvre pour la maison. Mais oui, mais c'est l'essai, c'est magistral, c'est le French Play, c'est l'essai. Oh là là, et la maison qui transforme derrière, 10-6 pour l'équipe de France.
Finesse qui bascule en tête au bout de 20 minutes de jeu.
Et là, franchement, les All Blacks, ils sont pas bien, je pense.
Ils commencent un peu à se poser des questions.
Là, ouais, je pense que la peur change de camp et forcément, le favori commence à se dire qu'il va falloir qu'il maintienne son statut et qu'il va falloir répondre assez vite.
2 minutes plus tard, les Blacks marquent une pénalité.
Ouais.
Ça va leur permettre de revenir à 9-10. Et puis, quelques minutes plus tard, peut-être que ce n'était que de la poudre aux yeux, finalement, cet essai français.
Ça masquait peut-être, oui.
Puisque, que se passe-t-il? Nous allons tout de suite l'écouter.
Le ballon quasiment sur la ligne des 22. Une longue balle, Christian Culen, Jonah Lomu, l'arbitre laisse l'avantage, Jonah Lomu face à Milou Tamak, Lomu, il faut l'arrêter, il défonce tout.
Oh là là, quelle action de Jonah Lomu,
c'est Gulliver.
Un extraterrestre, Christian, n'ayons pas peur des mots.
C'est Gulliver au pays des Lilliputiens.
C'est un extraterrestre, 5 Français sur le dos, il a fait 10 mètres, et il est allé marquer.
Alors que Christophe Juillet est touché, 24 essais en 37 sélections, Jonah Lomu.
Qu'est-ce qui vient de se passer, Younes? C'est la leçon de rugby de Jonah Lomu.
Christian Jean-Pierre n'exagère même pas, en fait. Hein. C'est vraiment Gulliver au milieu des Lilliputiens, où moi, j'ai tendance à avoir une autre référence. C'est Arnold Schwarzenegger dans une maternelle. Effectivement, une fois qu'il est lancé, il prend de la vitesse et il arrive à son paroxysme en 5 mètres et il est inarrêtable. Mais vraiment inarrêtable. On le voit, en fait.
Il va défoncer.
Il défonce en fait tout le pack français en fait.
Et... Bah, c'est même pas il défonce, c'est que les joueurs se jettent sur lui et s'explosent en fait complètement.
Bah,
c'est
exactement. Et donc en fait, ouais. On commence par une chandelle des Blacks et une accélération du jeu côté droit que le pack néo-zélandais se libère. Le champ de l'attaque en faisant basculer le ballon et ça va hyper vite. Donc vraiment le ballon fuse comme une savonnette. Il arrive de l'autre côté en fait du terrain et là. La stratégie en fait, que les Français ont réussi à enrayer depuis le début, c'est-à-dire essayer d'éviter que John Alomou n'attrape le ballon.
Et ne se lance.
Et se lance. Et bah, il arrive en fait, finalement le scénario redouté des Français. John Alomou commence à prendre de la vitesse. Et à ce moment-là, il est inarrêtable. Donc il maîtrise un premier joueur, et je n'ai pas le nom là, donc pour le coup, il le maîtrise en fait, vraiment comme un enfant qui se jetterait sur lui. Et donc, il le repousse d'une seule main. Ouais. Donc sa main vraiment ne bouge pas, quoi. Là, il est en pleine vitesse et on a tous ce souvenir en fait d'une multitude de joueurs français autour de lui, mais surtout de Benazi.
Ouais.
Benazi, c'est quand même un bébé de 115 kilos. Donc,
beau bébé.
Beau
comme
bébé.
Younes.
Voilà, au moins la cuisse. Et pour le coup, en fait, lancer, l'idée, c'est quand même de faire un carton. Et en général, c'est toujours à l'avantage de celui qui attaque et qui finit par écraser celui qui courait et sans s'en apercevoir. Et là, en fait... Ben, on a la surprise de voir en fait que Benazi rebondit littéralement sur l'épaule de Lomu.
C'est vrai, hein, l'image.
Et l'impression, elle est accentuée par le fait que normalement, quand vous voulez déstabiliser un joueur, vous l'attaquez le plus bas possible. Ouais. Et les joueurs français, ils sont un peu déstabilisés.
Ils sont déstabilisés.
De le prendre en haut et ils sont incapables de le faire. Bien
c'est
sûr.
Impossible.
Ils vont y remédier
en fait.
Un peu plus tard, mais c'est vrai qu'au début, ils visent trop haut en fait. Impossible de le plaquer.
Beaucoup alors que nous, Chloé, on y aurait été, bah, on aurait
été plus bas quand même.
Bah, bah oui, forcément. Oh.
Surtout avec les Lièvremont.
Ah, Marc, ça m'a.
Bref,
et donc en fait, le carton n'a pas lieu. Il fait un raffut total en fait dans la défense française. Ouais. Et on compte 5 joueurs, mais on est plutôt autour des 6-7 après.
Moi, j'ai compté 8, mais je sais pas compter, donc alors, ça va être
mais
pas
en fait,
beaucoup.
Moi non plus, je sais pas compter, j'aurais compté 27, donc j'ai pas très bien compris.
Non, mais en fait, je crois.
Allez, on arrondit à 30.
Il y en a 5 à un moment qui sont un peu sur lui en même temps, et en fait, même ceux-là, il les transperce, mais en tout, ouais, il élimine 7 ou 8 joueurs
oui,
français.
Oui, après l'intervention de Benazi, quand même, on sent Lomu se ralentir légèrement, ouais. Mais il en remet une dernière
une couche. Exactement.
Et là, il aplatit, en fait, tout simplement, il écrase le ballon. Et
14-10.
Et 14-10.
Mais l'essai n'est pas transformé. Donc, on reste à 14-10 et les Français, après cet essai, vont continuer quand même à s'accrocher.
Oui, parce que là, après ça, on se dit que bah, ça va être compliqué, que les Français, finalement, ont pris un coup derrière la tête aussi psychologiquement. Parce que se manger ce genre de but, c'est un peu comme le but qu'on annonçait au football de Ronaldo. Et puis, finalement, de s'apercevoir, bah oui, effectivement, il est présent pendant le rendez-vous. Lomu était attendu. Lomu a répondu au rendez-vous et il écrase tout le monde. Mais les Français répondent.
Donc les Français, là, ils vont continuer quand même à se créer des occasions. Ils vont continuer à avoir un bout de jeu de pied. Il va même y avoir, je crois, un essai refusé
de Bernard Salle.
Qui a l'air...
Philippe.
Il a l'air plutôt justement refusé cet essai. J'ai re-regardé les images pour voir si on nous avait volé un essai.
Il est justement, je crois que c'est
Sarah,
pas du tout comme l'essai
Sarah
de 95.
Duvalide, il est refusé.
Il est refusé. Attendez, j'écoute dans l'oreillette ce que me dit mon arbitre assistant. C'est refusé. C'est
oui,
bon.
Voilà. Merci Lavard.
Et puis finalement, juste avant la mi-temps, une nouvelle pénalité pour les Blacks. On se quitte sur un 17-10.
Oui.
Il y a une petite dispute qui éclate là, j'ai vu à la fin, à la première
oui,
mi-temps.
Oui, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs.
On ne comprend pas très bien ce qui se passe.
On se chamaille.
Oui. On aime bien se chamailler dans le rugby. Hein,
oh, ça se chamaille dans le rugby.
En fait, on n'a pas vu.
Le cassoulet, l'accent du sud.
On n'a pas vu, ça va très très vite, mais en fait, il y a Marco Materazzi qui vient et qui dit ta mère est une pute.
Oui, c'est vrai. C'est
fou de boule. Tu sa merde encore celui-là.
Heureusement que Domenech a demandé sa femme en mariage entre temps parce que sinon.
Et donc, on arrive à la mi-temps. Et peut-être dire quelques mots de l'ambiance dans le vestiaire français à la mi-temps.
Bah ça va en fait.
Exactement.
C'est pas la catastrophe, ils sont pas déprimés. En fait, déjà à la base, il y avait comme une espèce de fierté de jouer contre les Blacks. Donc dans tous les cas, c'est un grand moment pour eux. Mmh. Et même s'ils prennent leur trempe, ils sont là genre... Ah mais c'est... Vous avez vu qu'ils commencent un petit peu à moins bien jouer, à être un petit peu déconcentrés. Ils ont commencé à marquer des failles dans le système de défense en face.
Tout le monde a l'impression d'être bien là au rendez-vous et ouais. De tenir son rôle en fait.
Ils sont en vie en fait. 17-10, ça va, 7 points de retard, c'est jouable, on peut gagner.
Oui, c'était pas forcément espéré au début de match de coller autant. Marc Lièvremont, encore lui, là va avoir vraiment un rôle important.
Là, il va chauffer tout le monde.
Il va haranguer la foule. On l'a jamais, vous voyez pas, ils ont peur, faut y aller.
La France a peur.
La France, non,
la France n'a pas peur.
Thibaut, nous on n'a pas peur, Thibaut.
On n'a pas peur.
Et d'ailleurs, même l'entraîneur des Néo-Zélandais, il sent aussi que ils sont pas aussi sereins que ça, et il leur dit bon, maintenant les mecs, vous allez fermer le jeu, et ils ne vont pas le faire. Parce que les Blacks, c'est aussi du beau jeu, c'est aussi joué.
Parce qu'ils savent pas le faire, je pense.
Et peut-être qu'on peut définir fermer le jeu pour ceux qui s'y connaissent pas forcément en rugby.
Défendre.
Défendre. C'est magnifique.
C'est bien.
Voilà, en stéréo.
C'est-à-dire, plus tu attaques, plus tu as de chances de laisser des espaces et de donner des occasions à ton adversaire de marquer des essais.
Il y a toujours une position sans le ballon et une position avec le ballon. Et là, les Français ont décidé un peu de laisser le ballon pour pouvoir justement se concentrer sur les tâches défensives. Donc, c'est des besognes que l'on n'aime pas trop quand on imagine un beau jeu.
À la sale besogne.
Voilà, et quand on parle du French flair, on ne parle pas forcément de ça.
D'accord. Et donc, retour sur le terrain. Les Français sont plutôt sereins, mais au bout de 5 minutes, Chloé, on peut dire que c'est le drame.
Oui, parce que l'autobus est lancé à toute vitesse sur le carré vert. Oui, effectivement. Juste avant, les Bleus ont fait en sorte de faire s'effondrer la défense néo-zélandaise. Ça n'a pas forcément marché. Du coup, en fait, au retour sur le terrain, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à la reprise. On a un bon jeu au pied de la maison. Je sais pas
toujours.
Ce que Christophe, hein, notre ami Christophe.
Titou.
Appelons-le Titou quand même.
Alors, Titou qui tape une touche de l'espace qui le renvoie dans les 22 de l'autre côté. Enfin, vraiment, on sent qu'il est au taquet. Sauf que c'est récupéré par notre ami Jonah, hein, avec les fameux commentaires « Amuse-toi, Jonah ! Mais qu'est-ce qu'on fait quand le monstre déboule ?» Parce qu'il slalome entre les joueurs, c'est formidable. Donc, il marque son essai qui est transformé par Mertens. On arrive à 24 à 10.
Et oui, et c'est quand même le huitième essai de Jonah Lobou dans cette Coupe
dans
du
cette
Monde.
Compétition, ouais.
Ce qui est quand même assez impressionnant.
Et il y a un témoignage qui, moi, m'a touché. C'est celui de Xavier Garbajosa, qui est le dernier homme à... pouvoir se dresser à marcher sur la lune. Il a gagné un Oscar aussi, t'as tendance à l'oublier.
On l'oublie trop souvent,
il était magnifique dans Ocean 12. Et c'est le dernier rempart avant la ligne d'en-but.
Il est touchant.
Face à Lomu. Et là, tout d'un coup, il va faire quelque chose, il va avoir peur. Et c'est une peur complètement humaine. Et revu les images, ça m'a beaucoup touché.
Il laisse
Lomu y aller parce qu'il a peur pour sa santé, son intégrité physique. Et d'ailleurs, il va se reprocher ça grandement.
Toute sa vie.
Il n'arrête pas d'en parler. Il dit j'étais une merde.
C'est une image qui va le hanter.
C'est une merde quand même.
Xavier Garbajosa, c'est pas une merde. En plus, il est entraîneur
à Montpellier. On l'aime beaucoup.
Ah bon, à Montpellier maintenant?
Maintenant, oui.
Oui, oui. Bon, il était à La Rochelle, bien sûr.
Exactement.
Il y en a un des deux qui est vivant et l'autre qui est mort. Mais bon, j'ai pas envie de.
Non. C'est trash.
C'est pas joli.
Non. Un carton jaune.
En tout cas, c'était humain. Et sa réaction.
C'était humain. Et preuve qu'une équipe est née vraiment, c'est que personne va lui reprocher quoi que ce soit. Peut-être que si ça s'était passé trois matchs avant, Garbajosa aurait été au fond du trou.
Pas dessous.
Peut-être après, du coup. Bref.
Mais
voilà.
C'est vrai qu'à ce moment-là du match, on n'est pas bien. On est mené 24-10, 14 points d'écart face à Nouvelle-Zélande.
Ça paraît
vraiment
irrécupérable.
Ce qui est fou, c'est que c'est le tournant du match. Et pas dans le sens dans lequel on l'attendait.
Non, complètement.
Puisque là, c'est grâce à qui? C'est grâce à qui, là, juste après, dans les 10 minutes?
Grâce à Titou.
C'est grâce à Titou.
Qui fait Titou?
Mark Marquez, the man of the hour.
On va finir par là. Coupe son micro, allez, c'est bon, coupe son micro.
Bonjour Chloé.
Thibaut, qu'est-ce que fait Titou dans les 10 minutes suivantes?
Titou, il prend ses responsabilités. Il prend le ballon.
J'aime bien les gens qui prennent leurs
responsabilités. Il reconnaît ses enfants.
Marc Lévremont, Thomas Lévremont.
Il paye sa pension, c'est ça?
Et bien Titou, il prend le ballon et il se dit, moi je vais mettre le ballon entre les poteaux. Je vais taper deux drops et mettre 6 points. Et puis je vais taper des pénalités et mettre encore 6 points. Et en 10 minutes, il ramène la France à quelques points de la Nouvelle-Zélande.
Combien il marque de points dans ce match?
28 points.
Non, 28 je crois.
D'ailleurs, il fait un exploit, enfin pas un exploit, mais il fait ce qu'on appelle... un full house, c'est rigolo parce que ça s'appelle la maison, c'est full house.
C'est vrai que c'est drôle. Allez, rigolez tous.
Un full house, c'est le fait de marquer des trois.
Je viens de comprendre, j'avais pas. La maison, full house, house, maison. J'explique pour ceux qui.
Des trois façons différentes, c'est-à-dire en marquant un essai, en marquant une pénalité et en marquant ce qu'on appelle un drop. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un drop, eh bien, tant pis pour vous.
Ils iront sur YouTube.
Mais non, on va leur dire.
Ça va, dis-leur ça.
Un drop, c'est quand on marque au pied au rugby dans l'action, c'est pas une pénalité. Le jeu n'est pas arrêté et on met le ballon entre les poteaux.
Et ça vaut 3 points.
Et c'est assez dur parce qu'il faut être assez dégagé pour pouvoir le faire. Il faut que devant soi, il n'y ait pas trop d'adversaires.
Très doué
pour
du pied et très puissant aussi.
Et donc, on est revenu à 2 points des Blacks et on va faire encore mieux puisque à 56 minutes, je crois que Thibaut, tu as une petite histoire à nous raconter.
Oui, qu'est-ce qui nous arrive, Younes? Oui, qu'est-ce qui nous arrive, Olivier? Qu'est-ce qui nous arrive, Sarah? Qu'est-ce qui nous arrive, Chloé?
Je sais pas.
C'est pas
Fabien 22. Et là, Fabien Galthié, sur ma fiche, il y a écrit François Galthié, mais c'est bien Fabien, hein, c'est pas son cousin de Colomiers. Et il envoie une chandelle dont le rebond est favorable, mais c'est pas favorable, c'est ultra favorable.
C'est genre la main de Dieu, quoi.
Ah, mais c'est la main de Dieu, je sais plus dans quel sport on est. Et là, qui c'est qui la récupère? C'est Christophe Dominici. Il avait eu le même genre d'action contre le Canada, mais il était resté les mains dans les poches.
C'est lui
pas
qui
couru.
A un chat qui l'a appelé le mou, c'est ça?
Oui, le mou, Jonas le mou, la blague d'Olivier, rappelez-vous, rembobiné. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Dominici? Il l'attrape, il fonce, il court, personne le rattrape. Et c'est 24. 29. La France prend les devants.
T'imagines?
La France passe devant. C'est absolument.
J'ai déjà des frissons.
C'est absolument incroyable.
Inattendu.
Déjà que c'est incroyable. Et en plus, c'est même pas fini.
Allez, ballon important, Casson. Si les Français remarquent, c'est sur cette touche. Allez, bon, il peut pénétrer des Français. Très bien fait, c'est très bien fait, ça.
Les Français qui progressent.
Oui, ils enfoncent tout. Ils ont progressé de 15 mètres. Ont-ils toujours le ballon? Oui, les Blacks sont sur le reculoir. Le pack français domine. Galthié au large. Un ballon par-dessus.
C'est fait
de Richard Lourdes. Et c'est validé par Monsieur Fleming. Quelle équipe de France. Le France Flair.
C'est extraordinaire. Extraordinaire ce que font les Français, ce que fait Christophe Lamaison encore une fois. Les Français l'avaient dit, on jouera par-dessus la défense. Regardez comme c'est bien fait. Une passe au pied.
Il est plus vite, plus rapide que Wilson. Que c'est bien joué. Petit coup de pied tactique. Et Richardon qui se jette face à Wilson. 34-24. 10 points d'avance pour la France.
10 points d'avance pour la France.
Oui, le fameux French Flair.
French Flair.
Qui n'est pas un fromage. Hein.
Non.
Et une région. Hein.
Et c'est transformé, hein, qui va nous mener à 36-24. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Encore un magnifique essai où le pack français, c'est-à-dire donc, tous les joueurs qui se mettent ensemble en portant le ballon et qui poussent contre les Blacks et qui les font reculer de quasiment 25 mètres.
Là, on gagne du terrain.
Est,
ouais.
Ce qui est absolument magnifique, puisque oui. Les Blacks sont réputés pour être des bonhommes assez costauds quand même. Le pack français qui finit par s'effondrer, mais on récupère la balle. La maison fait une petite passe au pied au-dessus de la défense des Blacks.
Très malin.
Parfaite. Et Richard Doot se jette sur le ballon avant tout le monde. La maison, d'ailleurs, racontera que c'était une séquence qui avait été maintes fois travaillée à l'entraînement et que ce jour-là, tout s'est passé.
Comme prévu.
Exactement comme c'était.
Ah, c'est beau.
Et il l'a fait 25 fois, d'ailleurs.
Ça, t'aimes bien, Sarah, quand ça se passe comme prévu.
Moi, j'aime bien quand les choses, elles se passent comme on a dit, ce qu'elles allaient se passer. Et donc, incroyable, la France mène 36-24.
C'est incroyable. En vrai, c'est incroyable.
C'est incroyable. Il reste encore 20 minutes. Et les Blacks, bien sûr, vont quand même se lancer à l'assaut, mais les Français résistent.
Bah oui, là, il n'y a plus rien à perdre. On a créé l'exploit, on a fait basculer le match. Donc, c'est en la faveur des Français. Et là, il est question de sacrifice à ce moment-là.
Ah, là, c'est sacrifice. C'est le pied, c'est l'épaule, c'est la tête, c'est n'importe quoi.
On donne tout. On y laisse notre peau s'il le faut, mais cette victoire, une fois qu'on l'a touchée, qu'on l'a caressée, il est hors de question de la laisser filer, et même si on a la meilleure équipe du monde en face de nous. Quoi.
D'habitude, c'est le moment où on s'écroule, mais là, personne.
Exactement.
Ne va s'écrouler. Absolument personne.
Et oui, et d'ailleurs, on va tellement pas s'écrouler qu'à la 75e minute...
La fameuse 75e minute.
Je la connaissais pas, celle-là, moi.
Et pourtant, elle est très importante.
Ah ouais.
On va même enfoncer le clou.
Donc là, on est 5 minutes avant la fin du match.
Exactement.
Et on marque.
On marque, il y a une course absolument mémorable après un coup de pied d'Olivier Mann. C'est Olivier Mann qui court, c'est pas lui.
C'est Dourte. Dourte donne le. Richard oui. Dourte qui donne le coup de pied. C'est Mann qui part devant
qui
avec
court.
Jeff Wilson qui est censé être beaucoup plus rapide à la course qu'Olivier Mann qui est quand même un plus grand gaillard. Et ça court.
Et Thibaut, qu'est-ce qui va se passer?
Philippe qui apparaît. C'est Philippe Bernatzal qui court, qui récupère le ballon et qui marque.
Incroyable.
Alors on a calculé, je crois que Bernatzal a fait 100 mètres en 3 secondes et demie à ce moment-là.
Oui,
c'est incroyable.
Usain Bolt peut aller se rhabiller.
C'est incroyable.
C'est un peu plus rapide que toi au moment du live lorsque tu as dû courir un tout petit peu
pour le live de PO,
mais
oui,
quand même
c'est un peu plus rapide, oui, Voilà.
Mais pas beaucoup.
Non, mais c'est incroyable. On vous montrera les images, évidemment. Mais le Bernat Sall, il est hallucinant parce qu'il a quoi, 10 mètres de retard.
Exactement. Il a 10 mètres et il arrive à tout reprendre et il marque. Mais et là, on en est à 43-24. Je sais pas si vous vous rendez compte, 43-24. Les Français ont mis 33-0 au All Black en une demi-heure, même pas.
C'est incroyable. C'est insensé.
Ça devait être une cote monstrueuse auprès des bookmakers. Et effectivement, on a aussi en fait le stade. Le stade en fait qui chante la Marseillaise.
Oui. Les Anglais, ah oui, ça c'est incroyable.
Notre ennemi naturel. On est à Twickenham.
On est à Twickenham et les Anglais en fait
chantent la Marseillaise. Magnifique.
Et donc on a
converti. Ils disent n'importe quoi, mais c'est oui.
Ouais.
De la patrie.
Bon, il la baragouine, mais en tout cas, on a retourné tout simplement
l'opinion. La situation. Et bon, les Blacks vont quand même sauver l'honneur. Alors j'ai marqué, c'est un essai moins important puisque de toute manière on a gagné, donc on s'en fout. Mais on peut quand même en dire un petit mot, hein. Il marque à la 80e minute.
Par Jeff Wilson, le fameux. Et tu as marqué non seulement on s'en fout, et tu as fait 7 points d'exclamation. Après,
exactement.
On
a compté les points. On a gagné.
On est en finale.
Ouais, on est en finale.
On est en finale. On est en finale.
Et qu'est-ce qui se passe en finale?
On va perdre, car on est français.
Ouais, mais on va perdre avec Panache.
Le franche flair un peu. Hein.
C'est le franche flair. C'est le match du franche flair.
Tout à fait le franche flair.
Bon, à la fin du match, les Néo-Zélandais, ils sont tellement dépités que Jonah Lemou raconte même que la plupart des Néo-Zélandais ne vont pas faire la head honneur. Normalement, au rugby, il y a un vrai respect de l'adversaire.
Oui, c'est un protocole.
Oui.
Ouais.
On fait vraiment la head honneur pour
alors,
faire
sortir
les vainqueurs.
C'est pas obligatoire, mais c'est un protocole.
Non, mais c'est voilà, c'est
mais du respect. C'est très à cheval sur le protocole. Oui, on remarquera.
Mais c'est très.
C'était lui qui a écrit les règles. C'était quand même en 1830.
Je me souviens encore.
On avait
un petit bureau à l'époque. Hein.
Puisqu'on parle de Jonah Lemou, j'ai envie de le citer parce qu'il a écrit son autobiographie quelques années après et il va parler du coup de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en seconde période, en y repensant des années plus tard, semble inexplicable. C'était irréel. Les Français ont tout simplement pris feu. Que dire des essais qu'ils ont marqués? Que dire des rebonds heureux et des changements de jeu? La balle leur appartenait. À chaque fois qu'ils marquaient une pénalité ou un essai, nous nous disions que nous n'avions qu'à reprendre le contrôle de la partie. Mais c'était trop tard.
Mais c'est beau. Et Jonah Lemou, qui avait l'air d'être un gentleman, lui dit « Moi, j'ai dit à mes coéquipiers, allez, il faut faire la haie. » Mais il dit d'un autre côté, je leur en veux pas. Ils étaient jeunes, ils étaient tellement déçus, c'était dur. Jonah Lemou, qui d'ailleurs ne gagnera jamais une Coupe du Monde.
Non. Cette génération-là qui était magnifique sur le papier ne gagnera jamais une Coupe du Monde.
Alors, je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce match? Est-ce que vous l'avez vu en live?
En direct, oui.
Bah toi, oui, tu avais 45 ans à l'époque, donc tu t'en souviens bien.
Je m'en souviens bien, j'étais avec mes gosses. Ouais. Non, je me souviens, effectivement, on avait...
Mais t'étais au stade, non, Younes?
Sur
le terrain.
J'ai chanté la Marseillaise en premier, donc ils m'ont suivi après. Mais en fait, je me souviens surtout en fait de ce qu'était le Jonah Lemou en fait avant et pendant la Coupe du Monde. C'était un peu une icône publicitaire aussi. Donc c'était l'un des premiers rugbyman à faire entre guillemets de la pub. Je me souviens d'une pub FedEx où il livrait un colis et il bousculait à un moment donné un autobus.
Oh.
Et effectivement, on jouait là-dessus. Il était à San Francisco en train de courir partout pour livrer à l'heure un colis FedEx.
D'accord. Allez, c'est le moment de vous dire que PO a signé un contrat de 2 ans avec FedEx.
FedEx, merci FedEx.
Thibaut, toi, tu t'en
souviens?
Ouais,
moi aussi, je m'en rappelle et j'étais enfant. Et forcément, en fait, le match est tellement extraordinaire que je crois qu'on a gagné la Coupe du Monde, en fait, tout simplement. Je ne me dis pas qu'il y a quelque chose après.
Ouais.
D'ailleurs, t'as raison, c'est bien de le prendre comme ça.
D'ailleurs, on l'a gagné.
Oui.
Thibaut, il faut qu'on te dise un truc.
Olivier.
Et ben moi, c'est le premier match de rugby que j'ai regardé de ma vie. Je m'en souviens très bien, j'étais à Vierzon. Ouais. J'adorais Bernat Sall, j'adorais ses cheveux comme ça partout. J'adorais Dominici parce qu'il était tout petit. Parce qu'on l'a pas dit, mais il marque l'essai, mais il fait 1m72. Dominici, il est tout petit, il est encore plus petit que Thibaut.
Il a un gros chat.
Il a un très gros chat. C'était un très très bel. J'ai presque aimé le rugby à ce moment-là.
C'est beau. Chloé, toi, t'étais pas née, donc je pense que tu t'en souviens pas.
Non, j'étais pas là.
Oh.
Elle était comme un
joyeux anniversaire quand même.
Oui.
Bravo, Sarah.
Merci.
On aime les running gags.
Et toi, Sarah, tu t'en souviens? Tu l'avais vu, ce match?
Non, je crois pas. Je m'en souviens pas, malheureusement. Enfin, je pense que si je l'avais vu, je m'en serais souvenue me connaissant.
T'es sûr que c'est pas encore tes parents qui
m'ont
empêché.
Ils
t'ont enfermé dans un placard.
T'inquiète pas, c'est pas important.
Bon, avant de clore ce beau chapitre, peut-être quelques mots sur l'après-match. Bon, la nouvelle Nouvelle-Zélande, c'est une déception absolument terrible pour tout le pays.
Sans deuil, là, pour le coup.
Ça me fait marrer parce qu'ils disent qu'il y avait une équipe de TV qui était là pour tourner un peu les yeux dans les bleus, version Coupe du Monde 99 pour les Néo-Zélandais, qui remballent, malheureusement.
C'est le risque.
Et puis, il y a aussi en Nouvelle-Zélande directement, le gouvernement envisage sérieusement de mettre en place un numéro vert d'écoute pour les supporters en détresse.
Ça, c'est incroyable.
Avant de renoncer, quand même, ils ont quand même pesé le pour ou le contre. Ils se sont dit, bon, ça.
C'est un peu ridicule.
Mais il y en a quand même un.
Qui s'en sort bien.
Il y en a un qui a été vraiment le nez très, très creux. Puisque en misant sur les bleus à 25 à 1, il a empoché 30 000 euros.
C'est bien.
Il a empoché 25 euros.
C'est moins...
Il a dû s'exiler aussi après parce que effectivement le reste du pays ne voulait plus
le
détester.
Mais...
Et on détestait aussi, on a détesté aussi Joe Hart, l'entraîneur sélectionneur de l'équipe.
Très difficile
qui
pour
raconte,
lui.
Oui, qui raconte une histoire. Il avait des chevaux. Joe Hart. Il était passionné de chevaux et un jour il va voir son écurie, il va voir son cheval.
Oula, je crois que ça va être triste ton truc.
Et les gens lui crachent au visage et les gens jettent des canettes de bière sur son cheval. Il se fait.
Alors que le cheval, il a vraiment rien fait.
Et le cheval.
C'est lui qui avait parié en fait.
C'était le parieur.
Et d'ailleurs, la Nouvelle-Zélande s'inclinera. Hein, elle est tellement choquée, elle va s'incliner en petite finale contre l'Afrique du Sud.
C'est souvent ce qui se passe au troisième match en général. Il y a une décompression et puis les joueurs qui ne visaient qu'une seule chose, c'est-à-dire la victoire. Finale.
Ben forcément, c'est
délaisse un petit peu l'honneur et puis sont déjà ailleurs. Ouais.
Alors, pardon, vas-y Olivier.
Sarah, je t'en
prie. Parce que j'allais conclure. Alors,
pour dire que la France n'en a pas forcément profité de cet exploit. C'est la maison qui raconte très bien cela, qui dit que, pour synthétiser, que on avait une équipe, on avait un jeu technique. On a un jeu technique en France. On était le fameux Franche Flair. On aurait pu se reposer là-dessus tout en continuant le physique. On a complètement délaissé la technique pour faire du physique. Années suivantes, bien sûr. Un peu d'ailleurs ce qui est arrivé après l'Euro 2000. Avec le foot, je fais beaucoup de comparaisons, mais voilà. Et on a un peu, délavé nos joueurs. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que la maison, dit-il, a arrêté. Parce qu'il il ne voyait plus.
Il ne se reconnaissait plus dans ce sport.
Voilà, tout à fait.
Effectivement.
Et pour conclure et pour rester avec Christophe Lamaison, j'avais envie de vous lire une petite citation que j'ai trouvée très belle de sa part à propos de ce match. Ce que je vais raconter est absurde. Jouer au rugby à très haut niveau, porter le maillot des Bleus, ce sont des rêves de gosse, mais les réaliser procurent un sentiment que, à la limite, je peux retrouver dans ma vie d'homme. Mais autour de cette demi-finale, on a vécu un moment exceptionnel. Plein de sportifs ne connaîtront pas cette plénitude, ce sentiment de côtoyer les anges. C'est beau quand même.
Oui, trop beau. C'est magnifique.
Je pleure.
Eh bien, pour continuer dans la beauté et la finesse, je propose de lancer le jingle anti-doping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc, il fallait faire la petite chose.
Chloé, je crois que c'est ton anti-doping.
Ah ça va beaucoup mieux. Alors... Effectivement, très très récemment, on a eu une sorte de copycat de cette situation, mais plutôt dans le domaine du basket.
Et oui,
puisque très récemment, on a eu le championnat du monde de basket.
2019,
donc qui se situait du coup à Pékin, en Chine. Et l'équipe de France a froncé les sourcils aux USA. Donc l'équipe de France, les USA, on imagine un petit peu David contre Goliath, hein, c'est à peu près pareil. Et moi, mon petit moment de confidence, c'est que je suis super contente de parler un petit peu du basket parce que j'en faisais quand j'étais au lycée et j'adorais ça. Même si on n'était que 6 filles à faire du basket et qu'on était 2 à aimer jouer et que le reste du temps, en fait, j'avais la maladie du ballon qui est attiré par ma tête et je le réceptionnais du coup avec mon front très souvent. Donc voilà.
tu marquais des paniers avec ton front ?
J'arrivais à marquer des paniers. Ça a mis un peu de temps parce que tu vois, l'angle, ça dépend comment c'est tiré. Mais
une technique particulière mais qui fonctionne.
Ouais, mais tout dans les genoux en fait. Voilà.
Joyeux anniversaire, Chloé.
Joyeux anniversaire. Du coup, je suis perdue dans mes notes, je ne sais plus où j'en suis. Non, mais en fait, les USA, personne n'était arrivé à les sortir depuis la Grèce lors du Mondial de 2006. Et du coup, la France partait pas spécialement gagnante de tout ça. Et ils les ont défoncés.
Ouais.
Ils les ont éclatés.
Ouais.
Ils ont laissé toutes leurs dents sur le parquet. moi, alors moi, je suis pas assez les championnats de basket pour savoir, mais visiblement, c'était une équipe, les USA, qui était quand même pas au top de leur niveau, en sachant qu'ils avaient déjà perdu en amical face à l'Australie 81-90 et ont failli être battus au premier tour par la Turquie 93-92. C'est quand même pas mal serré. Et j'ai pas du tout.
On dit souvent, et on fait, effectivement, on dit souvent que dans le championnat du monde ou les championnats d'Europe, on a des règlements FIBA et qui sont pas forcément des règlements NBA. Mm. Donc les franchises NBA n'envoient pas forcément le 5 majeur américain et c'est souvent, on va dire, une équipe 3, voire une équipe 4 qui fait le championnat du monde.
Et ouais, c'était particulièrement le cas là, mais ça restait quand même un exploit.
Ça reste quand même un exploit parce que c'est des joueurs qui sont.
Ils perdent rarement, même en équipe 3 ou 4.
Ils gagnent. Ils gagnent toujours, surtout.
Oui.
C'est incroyable. Ils perdent un match tous les
10 ans.
Tu dis, ils n'avaient pas perdu en compétition
2006,
officielle.
2006.
Et la France, ils n'avaient jamais battu en compétition officielle.
Jamais, jamais.
Surtout.
Mais par contre, on a eu une équipe de France, du coup, notamment avec le capitaine Evan Fournier, qui décrit son équipe comme des chiens qui ne lâchent rien. Et j'ai trouvé que c'était.
Beau,
je sais pas, mais une image assez chouette pour dire à quel point ils avaient envie de sortir cette équipe des États-Unis à cette époque-là. Donc, on finit sur un beau 82-78.
C'est joli.
Qui est très honorable. Cependant, ils se sont heurtés, mais violemment. Pire qu'un autobus, ouais. Face à une équipe d'Argentine affamée.
En demi-finale, laissé, c'est ça
ouais, qui les a laissés en 80-66 sur le carreau.
Et les commentaires sont assez durs à ce niveau-là. C'est qu'effectivement, comme il y a eu une comparaison avec ce caractère de chien sur le match contre les États-Unis. Ils ont expliqué que contre l'Argentine, c'était des caniches contre des pitbulls, malheureusement.
C'est hyper triste. Et surtout, ce qui est hyper triste, c'est que Evan Fournier, en fait, lorsqu'ils ont reçu leur médaille, il a retiré sa médaille de bronze parce qu'il était tellement déçu de lui-même. Je vais le citer.
Oh non.
C'est
oh
la
non.
pression qui redescend, voilà, c'est tout. On était venu avec une ambition. Ce match, on le gagne parce qu'on mérite de faire quelque chose. Mais la demi-finale, cette défaite va me poursuivre toute ma carrière.
C'est
et je trouve ça tragique. Alors
c'est dur d'être un sportif.
Bah oui, regarde Xavier Garbajosa aussi. Il s'en remet toujours pas. Hein.
Ouais.
Bon, on est souvent hanté quand on est sportif et on est souvent.
C'est la loi.
C'est la loi du sport, c'est la loi du meilleur.
Mais on peut quand même acclamer ce qu'ils ont fait.
Bien sûr,
c'est la loi.
Un beau miracle.
Et moi
et Sarah, elle aime la loi, vous savez.
Elle aime la loi.
Elle aime les directives, les règlements aussi. Elle aime tout ça.
Exactement.
Sarah, qu'est-ce que t'aimes déjà ?
La loi.
Ah oui.
Et c'est pour ça que je décide. Que ce podcast touche à sa fin.
Oh non!
Voilà,
oh
j'étais
non.
Très heureuse d'être avec vous. Vous nous retrouvez où, Olivier?
Vous nous retrouvez sur Facebook, vous nous retrouvez sur Instagram, vous nous retrouvez sur Twitter, vous nous retrouvez chez moi demain si vous voulez. Grosse
tu
stuff.
Peux donner l'adresse?
Oui, bien sûr, ce sera au 14 rue Coura, code 73A89.
Cinquième étage.
J'habite au quatrième étage.
Ah, mais t'habites au Sofitel?
J'habite au Sofitel. Non, j'habite chez toi, Thibaut.
C'est vrai. Ouais.
Voilà, donc venez tous.
Mais écoutez, merci à tous. Merci Thibaut d'avoir accepté notre invitation.
Merci à tous.
Merci Thibaut.
Je ne pouvais pas refuser ce prize money.
Et pour finir, Younes, on se quitte en chanson?
Oui, on va écouter Ouattara Million Club, donc abrégé en OMC. C'était le numéro 1 sur MTV dans les charts dans les années 90. Et c'est l'un des plus gros tubes néo-zélandais.
Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Et à la prochaine.
À la prochaine.
À bientôt.
In the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly, red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge wears a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre! How bizarre! How bizarre! Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh baby. Every time I look around, it's in my face.
the stiffs up, stiffs the elephants sit down. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, far and wide. Tell yells, we're out of here, seen us sit right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh, baby. It's making me crazy. Every time I look around. Every time I look around.
Every time I look around.
Every time I look around. It's in my face. It's in my face. It's making me crazy. Every time I look around. Every time I look around.
Every time I look around.
Every time I look around. It's in my face. Every time I look around, it's in my face.